We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we?
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ces nouvelles chroniques de Maître Marais. Une chronique en forme de commentaire d'arrêt aujourd'hui. Le commentaire d'arrêt, cet exercice typique des partiels à la fac de droit. Celui préféré au cas pratique par les uns, moins apprécié par les autres, mais en règle générale préféré à la note de synthèse par tous. Nous allons nous intéresser cette semaine à un arrêt assez récent de la Chambre sociale de la Cour de cassation, un arrêt rendu le 30 septembre 2020. Alors si vous ne le savez pas, il y a toujours une série de lettres qui accompagnent les arrêts rendus, le Saint Graal étant le PBRI, qui résume que l'arrêt sera publié au bulletin, au recueil et sur Internet. Là, vous savez que vous avez un arrêt de grand intérêt. Mais là, vous avez un arrêt affublé du sigle NP non publié. Lui, il a été recalé d'office. Non publié, mais néanmoins intéressant pour rappeler quelques règles. Puis cet arrêt, c'est un peu une petite guerre de stratégie à qui tire le premier. En tout cas, un petit peu une ambiance western. Résumons le dossier. Une entreprise met à pied un salarié auquel elle reproche diverses fautes graves. Et à l'issue de son entretien préalable, le salarié décide de saisir le juge pour contester son imminent licenciement, qui intervient bien sûr quelques jours plus tard. Comme prévu et malgré cette manœuvre destinée, selon l'employeur, à faire pression selon lui. Sauf que la lettre de licenciement fait référence à cette manœuvre, constate le salarié, et parce qu'elle mentionne son action en justice, il considère que son licenciement doit être annulé. L'employeur conteste. Certes, la lettre de licenciement mentionne cette action, mais elle indique surtout l'ensemble des faits reprochés au salarié, en l'espèce négligence, méconnaissance des directives, comportement inadapté et autres joyeusetés. Peut-être, convient le juge, mais la lettre reproche tout de même au salarié d'avoir saisi le juge pour contester un licenciement qui n'avait même pas été prononcé, ce qui constitue une atteinte à son droit d'agir en justice et qui rend le licenciement nul. Alors, rappelons les règles en la matière. L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque à un entretien préalable par lettre recommandée accusée réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre de convocation comporte objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur, date, heure et lieu de l'entretien, lieu de travail ou siège de l'entreprise et possibilité d'assistance du salarié lors de l'entretien. Un délai minimum de 5 jours ouvrables doit être respecté entre la présentation de la lettre de convocation et la date de l'entretien. Et durant l'entretien, l'employeur expose les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. Ensuite, le licenciement doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé réception, au moins 2 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable, parce que l'employeur est en effet censé poursuivre sa réflexion sur l'éventualité d'un licenciement en fonction des précisions qu'il a reçues du salarié. Il n'est pas censé avoir déjà pris sa décision. L'essentiel, c'est que ça soit comme ça sur le papier. Pour le reste, je vous renvoie à la vraie vie. Il n'existe pas de délai légal maximum pour l'envoi de la lettre, sauf en cas de licenciement pour motif disciplinaire, où il est alors fixé à 1 mois maximum après la date de l'entretien préalable. Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des délais différents. Alors, la lettre doit exprimer clairement les motifs du licenciement et elle fixe ainsi ce qu'on appelle les termes du litige, c'est-à-dire que l'employeur doit élister les griefs reprochés au salarié et rien que ceci. Et vous avez bien compris que dans la décision qui nous occupe, c'est bien le problème, puisqu'en plus des faits qui se sont déroulés dans le cadre de la relation de travail, l'employeur vient reprocher à son salarié d'avoir saisi les prud'hommes en contestation de son licenciement, selon lui, pour faire pression et peut-être le dissuader de le licencier. Alors, on saluera au passage la célérité du salarié qui n'a pas tardé. D'où ma petite référence au bon, à la brute et au truand en début de chronique, parce qu'on est vraiment à qui tire le premier. Mais peut-être, finalement, était-ce la volonté du salarié, me direz-vous. Peut-être que c'était le but, un petit peu de faire peur à l'employeur en saisissant de suite les prud'hommes, alors même qu'il savait qu'il avait eu des comportements critiquables dans le cadre de la relation de travail. Et dans ce cas, l'employeur a-t-il vraiment eu tort de lui faire remarquer qu'il n'était pas dupe de ses bien-œuvres ? Alors pourquoi la Cour de cassation a statué comme elle l'a fait? Eh bien parce que ester en justice, comme on dit, c'est un droit et donc on ne peut venir fonder la sanction d'un salarié, même en partie, sur l'exercice de ce droit. Vous savez, ces fameux droits et libertés fondamentales avec lesquels je vous rebats les oreilles depuis que vous subissez mes chroniques dans Patchwork. Eh bien, vous voyez qu'on peut les voir ressurgir à l'occasion de n'importe quel contentieux, même dans un cadre qu'on n'attendait pas. L'action en justice, c'est l'objet d'un droit subjectif qui est indépendant du droit qu'elle tend à mettre en œuvre et dont l'exercice peut constituer un abus. La liberté d'agir en justice a été consacrée par une décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1989 et l'article 31 du Code de procédure civile reconnaît le droit d'agir en justice aux personnes qui justifient d'un intérêt et d'une qualité pour agir. En l'espèce, un ancien salarié qui agit relativement à la rupture de son contrat de travail. Aucun problème. Et là, en l'espèce, contester son licenciement et solliciter une indemnisation est distinct d'agir en justice tout simplement. On agit, première étape, on saisit le conseil du prud'homme, sauf qu'il faut savoir pourquoi. Donc on en vient à la deuxième étape pour obtenir la défense d'un droit précis. Et ce droit d'agir a deux versants, parce que vous savez que les droits, les libertés fondamentales, tout ça, il y a toujours deux facettes. Le droit de faire grève et de ne pas faire grève, par exemple. Alors là, en l'espèce, pour le demandeur, c'est le droit d'être entendu sur le fond de sa demande. Mais pour le défendeur, c'est le droit de discuter le bien fondé de la prétention du demandeur et de la contester et de maintenir sa position. Et là, en l'occurrence, ce qui a posé problème, c'est que l'employeur semble avoir reproché à son salarié d'avoir exercé ce premier droit, c'est-à-dire celui de saisir le conseil de prud'homme. Alors, pourquoi cet arrêt se retrouve affublé du sigle NP, donc non publié ? Parce que même s'il est récent et qu'il nous permet de revenir sur tout ça, il reste quand même conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation déjà rendue en la matière sur le droit d'ester en justice. Vous avez un arrêt du 6 février 2013, vous avez un arrêt du 3 février 2016. On est sur une jurisprudence 1, 2, 3 constante de la Cour de cassation en la matière. Alors, il serait intéressant d'ailleurs de pouvoir prendre connaissance finalement de la lettre de licenciement dans le dossier, ce qu'on ne peut pas faire, pour voir comment l'employeur l'avait rédigée. Est-ce que l'allusion est très explicite ? Ou est-ce qu'elle est plus subtile ? Mais on peut imaginer quand même que c'est assez clair et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'interprétation pour que ça ait fondé la décision de la Cour de cassation. Alors revenons-en à nos conditions de validité du licenciement et de la lettre de licenciement. La lettre est signée par l'employeur ou par son représentant. Dans les 15 jours suivant l'information du licenciement, le salarié peut demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre. Le salarié fait sa demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Et l'employeur dispose à son tour d'un délai de 15 jours après la réception de la demande pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié toujours par LRAR ou remise contre récépissé. Mais à sa propre initiative personnelle, l'employeur peut aussi préciser les motifs du licenciement dans un délai de 15 jours suivant la notification de celui-ci. Et lorsqu'après tout cela, un salarié décide de contester son licenciement, le Conseil des prud'hommes peut faire droit aux demandes du salarié et soit déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit déclarer le licenciement nul. Quelle différence entre les deux ? Parce que là, en l'espèce, on est dans le cadre d'un licenciement nul. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est pas très compliqué. C'est celui qui est injustifié, qui ne repose pas sur un motif valable. Alors, vous avez beaucoup d'exemples en jurisprudence. Il est sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts aux salariés. La nullité du licenciement, quant à elle, c'est différent. Elle est prononcée par le juge lorsque le licenciement est illicite. Et les cas de nullité sont prévus par la loi et le Code du travail principalement, ou lorsqu'une liberté fondamentale est violée. On y revient. Donc est nul, par exemple, le licenciement d'un salarié victime de discrimination, d'un salarié exerçant la fonction de juré ou de citoyen assesseur, d'une salariée en état de grossesse ou en congé maternité, d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un salarié utilisant son droit d'expression. Tout ça, ce sont des cas prévus par des articles du Code du travail. Et les conséquences du licenciement nul, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça implique que le licenciement n'a jamais été prononcé. Ce n'est pas une simple suspension de la mesure. Ça implique donc que le contrat de travail s'est poursuivi. Et ça donne donc lieu à une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice subi et, si le salarié le souhaite, sa réintégration dans l'entreprise. Et cette réintégration, elle ne peut être prononcée qu'à la demande du salarié, pas à celle de l'employeur. Et la réintégration a lieu, bien que cette disposition ne soit pas explicitement prévue par le Code du travail. Si ça n'est pas possible, dans ces cas-là, c'est de toute façon réparé par l'octroi de dommages-intérêts. Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, ce que je viens de vous dire, et au moins égal à 6 mois de salaire. Vous voyez donc que déclarer le licenciement nul conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation dans cette affaire n'était pas neutre de conséquences, même pour un arrêt non publié. N'hésitez pas à commenter cette chronique sur la page Facebook d'Esprit Occitanie. J'aurai plaisir à lire vos commentaires et y répondre. Si vous souhaitez nous réécouter, eh bien retrouvez cette chronique ce soir à 23h et aussi demain matin, mercredi à 10h. Et bien sûr, dans la fantastique bibliothèque de podcast sur www.espritoccitanie.fr. En attendant, moi je me remets à mes petites recherches, à mes petites notes, et je vous dis à la semaine prochaine.
Bonjour chers auditeurs, Monique Marc pour la rubrique La lectrice d'Occitanie. Cette semaine, je vous fais découvrir un chapitre du roman Superman ne volera plus de Gilbert Nogués aux éditions Kern, qui débute par le couplet d'une chanson de Serge Reggiani, Les loups.
Dans une nuit que le dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors...
Un ciel dégagé sur un coin de campagne verte, un slogan revendiquant une France apaisée, la femme, dans toute sa blondeur arienne, le regard tendu vers la ligne bleue marine des Vosges, semble nous défier. Putain de putain, la blondasse ! Consuelo a hurlé si fort que Spartacus, se figeant au pied de l'affiche, a cru bon d'y aller de sa voix et manifester de la sorte son inimitié à l'encontre de la candidate aux élections présidentielles. Ce chien a de l'éducation et une conscience politique affirmée à n'en pas douter. Putain de l'enculé que voilà ! Consuelo se précipite vers Chaudron, l'alpague par les revers de sa robe de chambre et le décolle du canapé. T'es un putain de faf, tu t'en étais pas vanté. Je regarde Gégé et Lecce, qui, d'un même élan, commencent à se rapprocher, et à la mine réjouie qu'ils affichent, je me dis que pour Chaudron, ça va pas être la fête du slip. Surtout qu'il n'en porte pas, vous vous rappelez. Et tu sais ce qu'on leur fait aux loups de ton espèce, aux faf? Non? Elle se tourne vers Lecce. Dis-lui, Lecce, dis-lui ce qu'on leur fait. Un faf, une balle. Ouais, un faf, une balle. Le visage de Chaudron se liquéfie, se désagrège, se décompose. Il voit son avenir passer du bleu marine au noir sombre. Un instant, il tente de se reprendre un peu. Vous trompez, je ne suis pas fasciste. En plus, il se fout de notre gueule, ce branleur. Oui, rappelez-vous les allers-retours devant l'écran. Tempête Gégé qui lui décoche une gifle amicale. Ne me touchez pas! On ne voulait pas vous faire du mal, monsieur Cambolive. Je ne voulais pas, c'est Pezuc qui... Je vois de qui il parle. Pezuc, le PDG de la société Les Chaudronniers Toulousains. Pezuc, avec sa tronche de fouine, ses faux fuyants permanents, ses mains molles qui vous collent aux doigts. Ils étaient donc ensemble ce soir-là. Ensemble, ils ont provoqué la mort de mon frangin. Consuelo me lance un regard interrogatif. D'un bref hochement de tête, je lui laisse comprendre que je sais de qui il parle. « Ne me touchez pas ou j'appelle la police !» insiste l'énergumène. « Tes copains de la police, précise Lecce, on leur chie à l'arrêt. T'as pas compris ce qu'on vient de te dire, hein ?» L'homme, le dos appuyé contre l'affiche, roule des yeux. Madame la marquise, ici présente, Lecce la désigne du doigt, va te le rappeler. Un faf, une balle. Ça t'évoque rien, ce slogan? Fais tourner tes putains de méninges de demeurer. L'individu s'agite en tous sens. On va t'installer un peu mieux. On n'est pas des sauvages, histoire que tu ne perdes aucun détail de l'histoire, intervient Lecce. Le brocanteur s'enquiert d'une chaise et y installe tout en douceur, c'est un euphémisme, notre nationaliste, non sans l'avoir dépossédé de sa robe de chambre. Chaudron tente de masquer ses génitoires, peut-être qu'il ressent la fraîcheur de la situation, mais une gifle moins amicale de Gégé vient lui réchauffer la joue gauche. « Attache-le !» me demande Consuelo. J'avise la ceinture de la robe de chambre et entoure le corps de Chaudron en serrant le plus fort possible. Il ne manifeste aucune velléité, les paluches de l'ami Gégé demeurant disponibles pour tout éventuel éclaircissement. T'étais où en 1984, le 6 juin ? Chaudron plonge ses yeux hagards dans ceux de Consuelo qui brillent d'un éclat nouveau derrière ses petites lunettes rondes. Les mains appuyées sur les rondeurs de ses hanches, elle assène. T'as oublié ? Pas nous. Tu veux que Gégé te rafraîchisse un peu les esprits ? Le frontiste plisse le front et secoue sa tête. Assurément, il ne goûte pas la délicatesse de Gégé. Ce jour-là, un copain du scalp a déterré la hache de guerre en faisant sauter la salle de la piscine municipale pour empêcher ton putain de borgne de mes deux d'y prêcher son évangile de merde. Et je reste poli. Le scalp, ça te dit quelque chose ? Interroge le Tché en empoignant la tignasse garnie de chaudron. Section carrément anti-Le Pen. Un rassemblement de noirs, d'apaches, d'arabes, de métèques, d'homo, de drogués. Tu veux que j'en rajoute ? Rien que des copains à toi, c'est bien ça ? Pitié, pitié, laissez-moi ! Implore l'apprenti phalangiste, espérant par une dernière prière voir arriver les tuniques bleues à sa rescousse. Le Tché reluque une grande casserole et un wok sur l'îlot central de la cuisine, s'en empare et nous rejoint. Je le regarde faire quand il tape du coude contre le bras de Gégé et lui tend un des ustensiles. Et c'est pas dans une recette de Top Chef qu'il a prévu de se lancer. Il me jette un regard malicieux, m'invite à le suivre et tous trois, nous nous lançons dans une danse autour de la chaise de chaudron, tout en tambourinant près de ses oreilles. Spartacus se joint à notre joyeuse sarabande et nous tournons. Bon, vous voyez. Je doute que notre ronde endiablée égaye notre obscurantiste, éperdument attiré par le discours décomplexé de la blonde. Bon, on va pas y passer la soirée, même si on commence à bien s'amuser, avance Consuelo, qui elle aussi, à son tour, se dirige vers la cuisine. Impatient de la voir revenir, nous poursuivons notre danse des esprits. Waouh, waouh, que le grand Manitou nous vienne en aide pour chasser de notre terre sacrée le maléfique homme blanc. J'accompagne de waouh, waouh la mélopée de Gégé, le Tché fait de son mieux et Spartacus avec ses waouh, waouh est en léger décalage, mais on ne s'en offusque pas. Consuelo nous rejoint, un large couteau entre les dents. « Tu sais ce qui va se passer maintenant ?» marmonne-t-elle en se positionnant face au visage pâle. Je crois comprendre et la mine déconfite de chaudron atteste que lui aussi a compris. Nous interrompons notre danse, sauf Spartacus qui s'est pris au jeu et continue de rouler. « Je résume. » Consuelo sort le couteau de sa bouche. « Je résume. » Tu vois Gégé ? Il a amené une putain de dame Jeanne. Elle lui montre la bouteille pleine de désherbants, de sucre et autres ingrédients posés sur la table. Dedans, il y a de quoi désintégrer totalement ta putain de baraque. Et toi avec. Arrêtez, arrêtez, je vous donnerai de l'argent. On s'en fout de ton putain de pognon. Mais avant de tout faire péter, histoire que tu piges bien ce qui s'est passé avec ton copain borgne et payer les mois de zonzon que notre camarade il a fait, je te le laisse dire, on va me scalper. Ben, tu vois que t'es pas si con que ça pour un facho. Vous n'allez pas me tuer. Tu sais, mourir n'est peut-être pas la pire des choses, professe sa majesté, sans dessein, en brandissant son couteau. C'est la première fois que j'assiste à une scène de scalp. J'essaie de me souvenir s'il y en avait une dans Danse avec les loups, pas sûr. Et notre loup ne semble vraiment pas apprécier la dextérité de notre Franck Provost en jupon. Talentueuse en capilliculture, Consuelo se révèle aussi cuisinière avertie et spécialiste de la découpe de la tête de porc. Gégé nous dispense des couinements de l'animal en faisant usage de ses mains sur la bouche de ce dernier. Consuelo brandit le morceau de cuir chevelu, tel un trophée de guerre, pour finalement le propulser sur le vitrage du séjour. La toison chaudronesque s'étale, sanguinole, s'agglutine au vert un court instant, puis dégouline lentement, effaçant en partie la piscine. Spartacus crapahute vers la baie vitrée et vient renifler le résidu de pelage avant de s'en désintéresser totalement. Ce chien n'aime pas les nationalistes, qu'ils soient ou non scalpés. Le scalpé en question rugit, s'agite au point de se renverser en arrière et de finir sur le sol. Il meugle, beugle. J'ai du mal à définir très exactement quel genre d'animal il tente d'imiter. Finalement, j'en ai soupé de l'entendre brailler pour rien et je lui enfonce une page du Minute qui traîne sur la table basse. Rougeoyante, incandescente, ivre de colère, Consuelo le toise de toute sa hauteur, un pied de chaque côté de la chaise qu'elle vient d'enjamber. Et c'est pas fini. Chaudron agite sa tête et tente de se faire entendre. Mais la page de Minute, aussi indigeste soit-elle, fait son office et le maintient dans un mutisme que je finis par apprécier. Rappelle-toi, ordure nasillarde, on t'a dit quoi tout à l'heure à propos de ce qu'on fait au FAF ? Encombré qu'il est par ses lectures, je vois qu'il peine à prononcer le slogan. Je l'aide. Un FAF, une balle. Un FAF, une balle, reprennent en chœur Gégé et le Tché, qui entreprennent une nouvelle danse des esprits ou de la pluie. J'hésite sur la qualification, mais je m'y lance aussi. Et comme on n'a pas de flingue, et donc pas de balle à t'offrir, tu vas apprécier mon arme de destruction massive, mon trou de balle. Et, à la stupeur générale, oui, même Spartacus reste sans aboiement, la marquise dépose son plantureux, que dis-je, son étouffant séant sur le visage de Chaudron. La mèche de 4 mètres met 360 secondes avant de provoquer l'étincelle qui met le feu au mélange concocté par Gégé. Mais nous sommes déjà loin. Chers auditeurs, vous pourrez réécouter cette émission ce soir à 23h et demain matin à 10h. Vous pouvez également retrouver les podcasts des émissions d'Esprit Occitanie sur notre site www.espritoccitanie.fr ou sur l'application mobile pour smartphone, téléchargeable depuis le Play Store. À la semaine prochaine !